Puisse ouvrir nos Bibles ensemble dans le livre des psaumes. Ce matin, je vais tout faire comme il ne faut pas faire. On va étudier deux différents textes. J'ai jamais fait ça. Tous les cours de prédication nous disent qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas prêcher deux textes en même temps. Mais j'aimerais parler de deux textes ce matin et j'aimerais parler d'un sujet qui, je suis sûr, vous avez tous vraiment à cœur. Ce sont les psaumes de lamentation. Alors, on va s'éclater ce matin ensemble. Et commençons par la prière. Merci Seigneur pour l'opportunité de tourner dans ta parole ensemble, d'apprendre de ce que toi tu veux nous dire. C'est ta parole, ce sont tes mots pour nous. Et dans ces psaumes de lamentation, ce sont des mots difficiles que des fois on ne comprend pas ou on ne sait pas comment utiliser. Mais toi Seigneur qui es plein d'amour, tu nous as donné ces textes, ces poésies en fait, ces chants, pour nous donner des paroles à nous quand nous ne les trouvons pas. Pour pouvoir nous rapprocher de toi, pour pouvoir passer au travers de nos difficultés. Alors je te prie ce matin, Seigneur, que tu nous apprennes par ton esprit ta vérité, qu'on puisse garder le meilleur de ces textes, de cette présentation, de ce message, et qu'on puisse devenir, comme on le disait tout à l'heure, de meilleurs adorateurs, parce que c'est ce que tu mérites. Dans le nom de Christ. Amen. Alors ce matin, on va regarder dans le livre des psaumes, le psaume 13. On va commencer par le psaume 13 et après le psaume 88. Ce sont des psaumes de lamentation. Alors j'ai intitulé ce message « Apprendre à se plaindre ». Ça donne envie, la vie chrétienne, apprendre à se plaindre. Alors tout d'abord, j'aimerais vous donner peut-être une petite introduction sur le psautier, le livre des psaumes en entier. C'est 150 psaumes. Il y a plein de détails, il y a plein de différents types de psaumes, il y a des psaumes communautaires, il y a des psaumes individuels, il y a des psaumes de lamentation, il y a des psaumes de remerciement, il y a des psaumes d'adoration, il y a des psaumes de confession, il y a des psaumes de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et alors, ça sert à quoi en fait ce psautier? Comment est-ce qu'on l'utilise? Alors pour vous donner peut-être une analogie un peu de base, je pense qu'on pourrait comparer le psautier d'Israël à notre « J'aime l'Éternel ». C'est un peu comme le livre des cantiques du peuple d'Israël, donc qui vivait dans l'Ancien Testament. Ce sont les chants qu'ils chantaient ensemble quand ils voulaient se rapprocher de Dieu. Donc c'est un peu ça, en fait, à la base, le psautier. Le psautier, c'est beaucoup de différents auteurs, comme on a beaucoup de différents auteurs et compositeurs dans notre « J'aime l'Éternel » ou dans le livre « À toi la gloire ». Et provenant de circonstances totalement différentes. Des fois, il y en a plusieurs du même auteur qu'il a composé à différents moments de sa vie. Et des fois, il y en a un seul par un seul auteur à un moment inconnu. On ne sait pas trop quelles étaient les circonstances qui ont conduit à ces paroles ou à ce chant. Mais voilà, il a eu un impact dans la vie de l'Église et on l'a gardé. Donc c'est un peu ça le psautier. C'est beaucoup de compositeurs, beaucoup de circonstances différentes, mais il y a une compilation, il y a un ordre intentionnel, juste comme dans nos recueils de cantiques, soit ça peut être alphabétique, dans la toile à gloire, c'est par catégorie. Il y a des chants pour la Pâque, il y a des chants pour la naissance de Christ, il y a des chants adaptés à différentes circonstances. Et le psautier, en fait, c'est un peu comme ça. C'est des psaumes divers, sur des thèmes divers, mais qui ont une progression intentionnelle pour avoir un impact dans la vie de la communauté qui les récite. Ouais, en fait, j'ai besoin de voir ça, alors je vais me décaler un peu. Je veux voir ce que vous voyez, parce que vous aurez le vrai truc, et moi, je ne veux pas dire des bêtises. Alors c'est un groupe de chants, de la poésie, des chants à chanter pour le peuple de Dieu, qui viennent de divers milieux et circonstances, mais c'est une compilation qui est faite intentionnellement avec pour but de nous donner des mots dans notre relation avec Dieu, de nous donner des mots qui ont déjà été pesés, qui ont déjà été réfléchis. Et c'est de la poésie, donc c'est des mots qui sont bien faits, qui sont magnifiques et qui nous aident dans notre expression envers Dieu. Et parce que c'est de la poésie et parce que c'est des chants aussi, ce sont des mots qui communiquent des émotions et ça nous aide quand on se sent pas bien, quand on est triste. Il y a des psaumes de lamentation qui nous aident à à passer au travers de notre tristesse, de ce moment plus bas de la vie. Il y a des chants d'adoration, de louanges, quand on est plein de joie, c'est super. Et ça nous rappelle aussi juste la délivrance que Dieu peut accorder. Donc, des mots qui sont pesés et qui nous aident à avoir des émotions réfléchies. C'est aussi un exemple de créativité, en fait. Chaque psaume, donc, ce sont des œuvres d'art, ce sont des textes de poésie, des textes de chansons. Et c'est un exemple pour nous de créativité dans notre marche avec le Seigneur. On peut nous aussi faire de belles prières avec des mots pesés et louer le Seigneur d'une façon nouvelle qui est adaptée à notre circonstance et dans une liberté d'expression qui respecte le Seigneur et en même temps qui nous aide à juste ouvrir notre cœur pleinement devant Dieu. S'il y a quelque chose qui nous dérange, nous les chrétiens, peut-être avec les psaumes de lamentation, c'est qu'ils disent des choses que nous, on ne voudrait pas dire au Seigneur. On a l'impression qu'ils vont un peu trop loin. Mais si ça marque une chose, c'est en particulier la liberté d'expression de ce Dieu qui nous prend tel qu'on est. Il voit nos circonstances, il les connaît encore mieux que nous. Alors, pourquoi cacher quoi que ce soit? Pourquoi cacher nos émotions, ce que nous ressentons aussi? Et puis, pour quelqu'un comme moi qui a fait un peu de la théologie, qui a étudié la Bible pendant longtemps, les psaumes, je trouve ça fascinant. Je trouve c'est un peu comme un condensé de doctrine chrétienne, mais en musique, en poésie, et c'est super rafraîchissant. Parce que si on prend juste les livres des psaumes, ça va parler de la création, ça va parler de la rédemption, ça va parler de la louange. Il y a des psaumes qui nous montrent presque juste une théologie de la louange, comment adorer le Seigneur. Ça parle de presque toutes les doctrines de la foi, probablement toutes les doctrines de la foi, mais en chanson. Et je ne connais pas un autre livre de la Bible qui parle de toutes les doctrines de la foi. Les psaumes, c'est vraiment unique de cette façon-là. Il y a toutes les doctrines qui sont en jeu, qui sont utilisées dans les psaumes. Et en même temps, ce sont des chansons, ce sont des chants encourageants. Et ça nous enseigne sur Dieu en même temps. Donc le psautier, en général, c'est tout ça. Des petits commentaires. Pour être plus précis, le psautier, c'est ça. C'est 5 livres différents. Le premier livre de chapitre 1 à 41. Deuxième livre, les chapitres 42 à 72. Le troisième livre, des chapitres 73 à 89. Quatrième livre, 90 à 106. Et le cinquième livre, les psaumes 107 à 150. C'est 5 différentes petites collections de livres qui ont chacune leur identité, leur emphase. Enfin, on ne dit pas emphase, si. Leur personnalité dans un certain sens, mais en même temps qui font un tout qui a été compilé probablement après la période de l'exil, parce qu'il y a des chants qui parlent de l'exil. Il y a un éditeur final qui a pris tous ces chants qui avaient été utilisés à différents moments, qui les a mis dans une progression logique des lamentations qui sont plus présentes dans les premiers chapitres jusqu'au chant de l'exil. Dans le livre 3, la question, mais on est parti en exil, est-ce que la monarchie, est-ce que l'œuvre de Dieu au travers du roi de la lignée de David est achevée? Non, le vrai roi, en fait, depuis vraiment le tout début, même avant Saül, le vrai roi, c'était toujours Dieu. Et c'est la réponse que le livre 4 nous donne. Et puis, on finit avec un livre magnifique, le livre 5, qui nous rappelle juste le caractère de Dieu, sa personnalité, sa personne, et qui nous invite à une louange, qui est en fait une louange lourde, quand on repense à toutes les expériences qu'on a vécues, que ce soit les psaumes de lamentation, de confession, ou les psaumes qui parlent de l'exil. Donc, il y a un tout qui est bien compilé ensemble, une progression intentionnelle, et divers mouvements de chants au travers du psaume. Si on prend, par exemple, nous on va être dans le psaume, dans le livre 1, les versets 10 à 15, les chapitres 10 à 15, tous ces psaumes sont des psaumes de lamentation qui nous aident à savoir quoi faire quand on sent que Dieu est éloigné de nous. Et juste après, il y a en réponse, il y a un autre mouvement de psaumes, les psaumes 16 à 19, quand Dieu est proche. Et ça culmine au chapitre 18 avec une manifestation personnelle de Dieu et au chapitre 19, que vous aimez tous, parce que ce n'est pas un psaume de lamentation, qui parle de la création et de la révélation de Dieu par sa parole. Donc divers mouvements dans un tout qui est bien compilé par un auteur, par un éditeur final. Donc voilà, les psaumes, c'est tout ça, de façon précise et en détail. Et quand on regarde à cette vue d'ensemble, en fait, on se rend compte que la moitié des psaumes que l'on a, ces livres qui sont nos recueils de chants, la moitié des psaumes que l'on a, ce sont des psaumes de lamentation. Le livre 1, c'est presque que des psaumes de lamentation. Le livre 2, pareil, presque que des psaumes de lamentation. Le livre 3, c'est des psaumes de l'exil. De quoi pensez-vous qu'il parlait durant l'exil ? Même dans le livre 5, qui est juste sur l'adoration, qui parle du caractère de Dieu et qui finit par la louange, il y a encore des psaumes de lamentation à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que ça montre que notre lamentation, elle est fondée envers un Dieu qui est capable d'agir et un Dieu qui aime. Donc même dans le livre 5, que vous aimez peut-être plus, il y a des psaumes de lamentation. La moitié du psautier, ce texte qu'il nous a donné, notre recueil de cantiques, ce sont des psaumes de lamentation. Et c'est pour ça que j'aimerais vous parler des psaumes de lamentation ce matin. Parce que si la moitié des psaumes que l'on a sont des psaumes de lamentation, ça sert à quelque chose de les comprendre peut-être un peu. Donc, si on regarde peut-être un peu la structure typique d'un psaume de lamentation, il y a sept étapes à peu près, plus ou moins, en fait, ça dépend des psaumes. Chaque psaume a sa propre identité, sa propre façon d'utiliser ses éléments un peu à sa sauce, de construire son propre château. Le premier élément, c'est une invocation. Invocation, c'est un gros mot pour juste dire tout simplement l'adresse, c'est « Ô éternel, ô Seigneur », c'est juste à qui on parle. L'invocation, donc après un cri d'appel à l'aide, des complaintes, parce que c'est le but, c'est la lamentation, la confession des péchés ou l'assertion d'innocence, c'est pour montrer qu'on est vraiment engagé dans notre relation au Seigneur. Je me plains, mais ce n'est pas juste pour me plaindre. Seigneur, regarde ma vie, je me remets en cause, je me remets du bon côté, dans la droiture, je confesse mes péchés. Ou alors, Seigneur, tu vois, je suis juste, ce que je fais, c'est bon, et malgré cela, voilà ce qui m'arrive. Donc, la quatrième étape, les confessions des péchés ou assertion d'innocence, ça montre l'engagement du psalmiste envers son Dieu, même si c'est un psaume de lamentation. Après, la malédiction des ennemis ou l'imprécation, ce sont des phrases que nous non plus on n'aime pas trop, mais en fait, ça fait partie de la délivrance. Dieu qui délivre le psalmiste, il le délivre de son malaise, de ce qui lui arrive, et en particulier de ses ennemis. Et après, le texte, les versets que vous aimez dans les chants de lamentation, ce sont les versets qui parlent de notre confiance en Dieu. Il y a tout ça qui m'arrive et pourtant je sais que c'est comme ça que tu es. Et puis au final, c'est pour ça que je te loue, parce que je sais que tu pourras agir dans ma vie. Donc voilà sept différentes parties, différents éléments qui d'habitude sont utilisés dans les livres de lamentation. Et on voit au travers de ça en fait une progression. Ces plaintes ne sont pas juste des plaintes, il y a une progression de voilà, c'est là où je suis, c'est ce que je vis, c'est difficile, mais je sais que toi tu es comme cela, et du coup je te loue parce que je sais que tu es capable d'agir dans ma vie. Ce sont des psaumes en fait, pas juste de lamentation, mais des psaumes de réorientation. C'est ça qui m'arrive dans ma vie, je passe de ce que j'ai au bout du nez à la louange de mon Seigneur. Donc ce sont des psaumes qui sont utiles pour notre adoration, pour notre analyse de nos situations aussi. Donc les psaumes de lamentation, c'est la moitié des psaumes. Ils suivent un processus de réorientation progressif de l'angoisse à l'espérance. Ils reflètent une grande liberté d'expression avec Dieu, mais tout ça dans le respect. Et ils expriment la consécration de leur auteur. On parlera du dernier point un peu plus tard, je pense. Renforcer ce point, en fait, que vraiment, les psaumes de lamentation, ce ne sont pas juste des plaintes juste pour se plaindre, ça marque aussi l'engagement du psalmiste envers son Dieu. J'aimerais vous lire un texte qui vient du Proche-Orient ancien. En fait, ce qu'il faut qu'on se souvienne, qu'on se rappelle, c'est que la culture du Moyen-Orient ancien, c'était une culture polythéiste. Ça veut dire qu'il y avait Yahweh, mais nos voisins à côté, ils adoraient d'autres dieux. Et le défi pour les Israéliens, les Israélites à cette époque-là, c'était de dire, J'adore Yahweh, mais si Dieu ne me donne pas la pluie pour faire pousser mes champs, pour que je puisse manger, ben peut-être j'irai voir Baal, parce que c'est lui le Dieu de la pluie, et il va me donner ce qu'il me faut. Et du coup, les psaumes de lamentation montrent notre engagement envers Dieu, parce que c'est vers lui qu'on se retourne, on ne va pas voir un autre Dieu, c'est vers lui qu'on se tourne pour qu'il entende notre plainte, pour que lui agisse, parce que c'est lui qu'on veut voir agir. Donc, un texte du Proche-Orient ancien qui s'appelle « Un homme et son Dieu ». Que l'homme proclame constamment la grandeur de son Dieu, que le jeune homme loue de façon simple les paroles de son Dieu, que les habitants grondent, qu'ils interprètent un chant à leurs amis, apaisez son cœur, apportez, proclamez et mesurez vos mots, que vos lamentations apaisent le cœur de vos dieux, parce qu'un homme sans Dieu n'obtient pas de nourriture. Même plus loin que juste le contexte israélien de la foi, le peuple, la culture du Proche-Orient ancien disait que les dieux en fait avaient créé les hommes pour pouvoir se nourrir. Ils avaient la flemme en fait, les dieux, quand ils étaient au début, et ils se sont dit j'ai faim mais j'ai pas envie de travailler. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer les hommes pour me faire de la nourriture, pour m'apporter des sacrifices, je vais pouvoir manger. Et puis après, moi en retour, je prendrai soin de ces hommes pour qu'eux, ils puissent continuer à me nourrir. Donc il y avait une relation à ce moment-là d'interdépendance. Et du coup, quand quelqu'un venait se lamenter envers son Dieu pour demander de la pluie, pour demander une bénédiction particulière, il disait « Non, c'est toi, c'est ce Dieu-là en particulier vers qui je me retourne, vers qui je vais chercher mon secours, parce que c'est en toi seulement que je veux croire. » Et sa lamentation dans ce texte, elle n'est pas comprise comme juste une plainte, mais tais-toi, j'ai pas envie de t'écouter. Elle est entendue comme une louange. La lamentation apaise le cœur de son Dieu. C'est un concept qui pour nous est totalement étranger. La lamentation de l'homme mésopotamien ou de l'homme de l'ancien du Proche-Orient ancien est une lamentation qui apaise le cœur du Dieu parce que ça montre l'engagement de cet homme envers ce Dieu en particulier. Donc, tout ça pour dire, pour nous, dans le contexte israélien, dans notre foi, quand nous plaignons devant Dieu, c'est une plainte qui est faite avec respect, mais c'est une plainte qui montre notre engagement envers Dieu, notre consécration. Mais allez, j'ai assez parlé. Il faut laisser parler la parole de Dieu. Tournez avec moi donc dans le psaume 13. On commence avec cette introduction au chef des chantres, psaume de David, mais ça c'est juste une introduction. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. » Donc, nous trouvons ce texte au milieu de ces mouvements de psaumes, des mouvements qui parlent de l'abus du juste, et puis après lesquels on trouve une réponse de Dieu, d'un Dieu qui en fait est proche, qui veut nous délivrer de façon particulière et qui se révèle de façon très personnelle. Il est plus proche que nous, que l'air que l'on respire, comme on dit. Mais au milieu de ça, on trouve quand même cette plainte. Cette plainte qui commence par des questions. Il dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? On trouve quatre questions dès le début, jusqu'à quand, Seigneur? Et ce ne sont pas des questions qui demandent une réponse, ce ne sont pas des questions qui demandent à Dieu, qui lui disent, dans 2 semaines, j'arrêterai de te faire du mal ou j'arrêterai cette situation. Non, en fait, ce sont des questions rhétoriques qui sont presque comme des accusations, en fait. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Mais ça a duré trop longtemps, il faut que ça s'arrête. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Et j'ai oublié 2 premières lignes. Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Le psalmiste, en fait, il a une situation pratique, il a des ennemis. Vraisemblablement, c'est David. On ne sait pas trop le contexte en fait de ce psaume. Comme je vous disais, c'est un psaume, mais dans quelle situation historique est-ce qu'on doit le replacer ? On n'est pas trop sûr. Vraisemblablement, c'est de David, mais il y a beaucoup de différents moments dans la vie de David où un psaume comme celui-ci aurait pu être écrit. Mais l'auteur donc a un ennemi, quelqu'un qui en veut à sa peau, qui veut sa peau. Et dans cette situation, il doit prendre la fuite et il se sent en danger. Sa vie, en fait, est en danger. Et en même temps, il se sent jugé par Dieu, ce Dieu qui l'abandonne, qui ne prend pas soin de lui dans sa situation. « M'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand cacheras-tu ta face ?» Donc, quatre questions pointues qui sont le cœur de la complainte. Après, on a le cri d'appel à l'aide. « Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu. » Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Cette plainte, donc, ce n'est pas une petite plainte. C'est pas, en ce moment, à la radio, il y a un chant populaire avec... c'est quoi l'émission qui est le samedi soir à la télé en France ? The Voice. Il y a un chant qui est très populaire que j'écoute à la radio. Il y a trois notes sur le refrain. Ça dit « J'espère que tu vas souffrir et que tu ne vas pas dormir ». C'est très poétique, c'est juste quelques phrases et c'est trois notes pour tout un refrain. Au niveau qualité-prix, elle a fait du bon boulot. Hein. Mais c'est presque pas une lamentation, c'est presque juste de la rancœur. Et puis elle se plaint juste parce que son copain l'a abandonné. Mais nous, c'est pas comme ça qu'on se plaint, nous, devant Dieu. On se plaint pas, oh Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai raté mes examens ? Ah, c'est vrai, j'avais oublié de travailler un peu. Non, c'est pas ça la plainte pour nous. Dans le livre des psaumes, les plaintes qu'on a, ce sont des plaintes sérieuses. Seigneur, je vais mourir si tu m'aides pas. Il y a une autre nuance quand même. Et du coup, il y a une sagesse dans les psaumes de lamentation. On se plaint pas n'importe quand, on se plaint pas pour n'importe quoi. Mais on a le droit de se plaindre, on a le droit de montrer à Dieu notre situation et Dieu nous prend là où on est. Alors que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Donc c'est sa plainte, c'est son cri à l'appel à l'aide, il ne va pas s'en sortir sans Dieu. Et puis à la fin, on a cette phrase de confiance. Moi, je suis confiant en ta bonté. La bonté du Seigneur, c'est un des termes les plus forts de l'Ancien Testament pour décrire le caractère de Dieu. Luc lisait tout à l'heure dans sa prière, oui bonjour Luc, il lisait le texte de l'Exode au chapitre 34, Dieu, j'ai oublié comment on dit, vas-y, fidèle et miséricordieux, et fidèle ça va avec la bonté. Tu veux le relire Lucky ? Voilà, la bonté et la fidélité, en fait, ce sont les deux termes peut-être les plus clés de l'Ancien Testament qui décrivent le caractère de Dieu. Que ça soit dans des textes de la loi, que ça soit par les prophètes, que ça soit dans les psaumes, ce sont deux termes qui sont réutilisés partout. Et on dit, si on doit faire peut-être une doctrine en une phrase du caractère de Dieu, c'est sa bonté, c'est sa fidélité. Et là, le psalmiste, dans son moment le plus difficile, où il se dit ben, « s'il n'y a rien qui se passe, je vais mourir », le truc en quoi il trouve sa confiance, c'est la bonté de Dieu, c'est l'essentiel. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je sais une chose, c'est que si on m'a appris une chose sur Dieu, c'est qu'il est bon, c'est qu'il a envie d'aimer, de délivrer. C'est son caractère, c'est son essence. Et juste en ça, je vais pouvoir trouver de la confiance, de l'espérance, parce que cette bonté, elle amène un salut vers le futur. Et en fait, ce salut, moi je pense, dans cette dernière phrase, « Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien », je pense que c'est un salut qui, dans une certaine mesure, a déjà été expérimenté. Il a déjà vu Dieu à l'œuvre dans le passé et il sait que, comme Dieu lui a fait du bien dans le passé, il peut encore lui faire du bien dans le présent, que Dieu va se trouver fidèle, même dans le présent. Et ça, c'est basé juste sur ce terme, la bonté de Dieu. Donc voilà, une première plainte, ça donne envie, non ? Premier texte de lamentation, Dieu qui trouve, qui nous donne des mots dans une situation peut-être terrible de péril. Ce psalmiste est en souffrance, il peut en avoir pour sa peau, mais il s'attend à Dieu pour lui répondre. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde un deuxième psaume, donc le psaume 88, qui a une personnalité peut-être un peu plus forte. Quand vous regardez ce texte, il n'y a pas toutes les catégories sur la droite qui sont utilisées, les catégories qu'on avait vues qui sont typiques des psaumes de lamentation. Mais le psaume 88 a une personnalité beaucoup plus forte. Et en fait, quand j'étudiais ce texte, il y avait des commentateurs du texte biblique qui disaient ce texte, en fait, ce n'est pas un texte inspiré. C'est un texte qui nous est donné dans la Bible, mais il y a tellement de plaintes, il y a tellement de choses difficiles dedans que c'est un exemple à ne pas suivre. On l'a dans notre livre des psaumes parce qu'il ne faut pas l'utiliser. C'est un exemple de quelqu'un qui est allé trop loin. Et on se dit, mais alors, ça c'est, si c'est vrai pour celui-là, est-ce que c'est vrai pour le psaume 13? Est-ce que c'est vrai pour la moitié des psaumes qui sont des psaumes de lamentation? Où est-ce qu'on s'arrête? Où est-ce que ça va? Non, à mon avis, ce psaume, il est très difficile, mais il est dans notre texte biblique, c'est un texte inspiré, et on a des choses à apprendre de ce texte. Alors, lisons-le ensemble. Cantique, psaume des fils de Corée, au chef des chantres, pour chanter sur la flûte. Cantique d'Éman, les Zrachites. Donc encore, c'est l'introduction, ça. Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence, prête l'oreille à mes supplications. Car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse, je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre. À ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de toi, de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance, je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme de perdition? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin ma prière s'élève vers toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi. Tes terreurs me réduisent au silence. Elles m'environnent tout le jour comme des eaux. Elles m'enveloppent tout à la fois. C'est toi qui as éloigné de moi amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. Donc vous voyez un peu, c'est chaud, hein? Qu'est-ce qu'on va faire avec un texte comme ça? Qu'est-ce que l'on peut apprendre d'un texte aussi difficile? Est-ce que vous vous sentiriez libre, en fait, de prier ce texte, de prier ces mots vers Dieu? Luc, il dit non. Mais non, on a la vie de Christ, la présence de l'Esprit en nous. Comment est-ce qu'on peut dire ces mots? Comment est-ce qu'on peut prier comme ça? Et en même temps, c'est la parole de Dieu, c'est inspiré, n'est-ce pas? Alors comment résoudre ce conflit? D'abord, on peut se demander comment est-ce qu'on en est arrivé là. Il y a tout ce livre, il y a tous ces psaumes, cette compilation intentionnelle de psaumes. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quel est l'auteur? On commence par le début. Cantique, psaume des fils de Corée. Cantique d'Éman, les Zrachites. En fait, il y avait trois Éman dans l'Ancien Testament. On ne sait pas c'est lequel. On ne sait même pas que ce soit certainement un d'entre eux. On n'est pas exactement sûr. Les fils de Corée, ils ont été utilisés dans l'adoration du temple depuis le temps de la monarchie, donc de David en particulier. Ils étaient utilisés dans la louange. Donc peut-être c'est quelqu'un du temps de Corée, mais en fait, du temps de David, mais en fait les fils de Corée, ils étaient impliqués dans la louange jusqu'au temps de l'exil en fait. Donc ça fait des centaines d'années où il y aurait pu y avoir un fils de Corée qui avait écrit ce texte. Comme on ne sait pas qui est l'auteur de ce psaume, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il a écrit, on ne sait pas vraiment dans quel contexte il a été écrit, Des fois, quand on chante certains chants du J'aime l'Éternel, peut-être vous vous posez la question, qui est-ce qui a écrit ça? Quand est-ce qu'il a écrit ça? Pourquoi? Et des fois, ça nous aide aussi à comprendre les mots de nos chants. Et là, on aimerait bien savoir, mais on ne peut pas demander à Eman Lezrachit, enfin, je ne sais pas si vous le connaissez, moi, je ne le connais pas. On ne peut pas vraiment lui demander pour avoir de l'aide. Ce que l'on sait, en fait, c'est que ce texte, il a été placé là, dans ce contexte des psaumes, dans un mouvement précis des psaumes, à mon avis, pour un but précis. En fait, on est dans le livre 3, si vous vous souvenez de ce premier diapo avec tous les le nom de tous les différents mouvements. J'espère que vous avez tout mémorisé, vous aurez un examen à la fin du culte. Il y avait le livre 3, en fait, c'était tout simple, c'était juste un seul mouvement pour tous les psaumes du livre 3. Ce sont les psaumes de l'exil, en fait. Et on voit dans ces textes trois différentes catégories de psaumes qui sont plus ou moins mises ensemble. Des psaumes qui directement parlent de l'exil, juste des souffrances de l'exil, c'est la majorité. Il y a des psaumes qui parlent de la prospérité du méchant. Pourquoi avoir ces psaumes-là dans les psaumes de l'exil? Parce que c'est les Babyloniens, ces infidèles, en fait, qui ont conquéri le pays de Canaan, qui ont battu Israël. Pourquoi est-ce que ces infidèles, ces gens qui ne louent même pas le bon Dieu, pourquoi est-ce qu'eux auraient gagné la bataille contre nous, Israéliens? Donc l'exil, la prospérité du méchant, la prospérité plus ou moins du Babylonien, en fait. Des psaumes qui parlent juste de Jérusalem, de la beauté de Jérusalem, parce que quand on est en exil, on se rappelle de là où on vient, de la beauté de là où on vient. Et ce sont des chants, en fait, qui nous aident à ne pas l'oublier. Donc des psaumes sur Jérusalem. Et en fait, ici aussi, on voit aussi une concentration de psaumes communautaires. C'est-à-dire, les psaumes ont dit « qu'est-ce qui nous est arrivé à la place de qu'est-ce qui m'est arrivé à moi ?» On se concentre sur l'ensemble parce que c'est toute la communauté juive, en fait, israélienne, qui est passée au travers de l'exil. Donc ils avaient des textes pour procéder au travers de ça, pour pouvoir savoir comment penser, s'adapter aux conséquences de l'exil. Ils avaient des textes qui pouvaient partager ensemble en tant que communauté. Donc c'est ça le livre 3, en fait. Ce sont des psaumes d'exil. Et là, juste à la fin du livre 3, on a deux textes de lamentation les plus difficiles, le 88 et le 89, juste à la fin, qui culminent, en fait, ces textes sur l'exil, pour parler de la souffrance de l'exil, je pense. Donc, contexte historique de ce psaume 88, on ne sait pas trop, sauf qu'il est placé là, dans ce livre 3 des psaumes, probablement vraiment intentionnellement, pour nous rappeler juste les douleurs et les souffrances de l'exil. Et l'exil, je vous demande, est-ce que c'est si terrible que ça? On en parle de l'exil, on l'enseigne à nos enfants, mais c'est un détail historique des fois, et on n'arrive pas à ressentir vraiment ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'un prophète, qu'est-ce qu'un jeune homme, par exemple, qui vivait à cette époque-là, aurait ressenti? J'aimerais vous donner peut-être deux ou trois catégories pour vous aider à comprendre peut-être ce que les gens ressentissaient à cette époque-là. Dans bien des façons, l'exil, en fait, on pourrait le comparer à la Seconde Guerre mondiale, des difficultés énormes et qu'on ne peut pas vraiment expliquer. La première difficulté, c'est l'abandon de Dieu. Dieu qui juge son peuple pour l'infidélité de son peuple, qui s'en va. C'est la vision d'Ézéchiel des chapitres 8 à 11. Dieu s'en va et il juge son peuple en s'en allant, mais aussi en détruisant la ville de Jérusalem. C'est lui qui condamne la ville de Jérusalem par son départ à cause de leur infidélité. Mais pour certains des gens d'Israël, peut-être ils se posaient la question, mais moi, attends, est-ce que j'ai vraiment péché? Pas forcément, peut-être qu'il y avait des justes, il y avait des prophètes. Jérémie, comment est-ce qu'il a péché, Jérémie? Il était fidèle du début à la fin. Et les justes à cette époque-là, peut-être pouvaient se dire, est-ce que Dieu a vraiment abandonné son peuple et nous juge comme ça, ou est-ce que Dieu, tout simplement, a subi une défaite? Ça pourrait être une question que les gens pouvaient se poser. Quand on vit ces difficultés, des fois, on peut se poser ça. comme durant la Seconde Guerre mondiale, tous ces gens qui ont été tués. Quand on est au milieu et que Hitler gagne du pouvoir, qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétien? Comment est-ce qu'on répond? Dieu, est-ce qu'il s'en fiche de ce qui se passe? Est-ce qu'il s'en fiche des gens qui meurent? C'est pas forcément une question qui est facile à répondre dans des contextes comme ça. Donc il y a l'abandonnement de Dieu qui est parti, il y a la perte de tout bien matériel, puisque c'est les vainqueurs qui gagnent tout. Il y a la mort, la séparation, les gens qu'on aime autour de nous, qui sont partis, qui ne sont plus là. On devient une minorité ethnique, culturelle et religieuse dans un pays étranger. J'ai vécu ça, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais on devient tout petit, quoi. On redevient un petit bébé, et une culture totalement étrangère, et on a déjà nos façons de faire. Et puis en même temps, ils sont opprimés dans cet endroit-là. Ils sont, voilà. Donc, toutes ces choses-là sont vraies. Est-ce qu'elles étaient justifiées? Oui, c'était la condamnation pour le péché que Dieu avait en fait prédit au travers de Moïse déjà dans le Deutéronome. C'était totalement justifié, les gens avaient été prévenus aussi, mais ça ne veut pas dire que ça fait pas mal pour le moins du monde. Et en fait, ça fait tellement mal que dans certains textes du Nouveau Testament, on ressent vraiment que peut-être à cette époque-là, les Juifs se trouvaient toujours dans une situation d'exil. Ils n'étaient pas en charge de leur terre, ils n'étaient pas en charge de leur gouvernement, et la louange, l'adoration qui se faisait dans le temple n'était pas en accord avec ce qui était prescrit dans la loi. Et en fait, il y a des rabbins de nos jours qui, si vous leur demandez quelle était la période la plus difficile pour l'histoire d'Israël, ils ne diraient pas forcément la Seconde Guerre mondiale, ils diraient peut-être l'exil, parce que c'est là où Dieu est parti, et la louange, la présence de Dieu, ça n'a jamais été pareil depuis. Des difficultés face à l'exil, face à une situation super, super difficile. Pour nous, on se dit, oui, mais la persécution, on a quand même de l'espérance en même temps que la persécution. On croit en la résurrection, on croit en la vie éternelle. Pour les... peut-être je vais passer vite. Pour les gens d'Israël, en fait, ce n'était pas forcément si évident que ça. Nous, on croit en la résurrection, mais la résurrection dans le texte biblique, on le trouve surtout dans le Nouveau Testament. Si vous recherchez le concept de la résurrection dans l'Ancien Testament, vous le trouverez peut-être dans Daniel. Mais avant ça, à l'époque de l'exil et des centaines d'années avant, la révélation biblique, la révélation de Dieu, ne parlait pas énormément de la résurrection. On a différents indices peut-être qui ressortent, mais ce n'était pas forcément un concept clair, je pense. Et du coup, quand le psalmiste se plaint et qu'il dit « Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, dans l'abîme, dans les ténèbres, dans l'oubli ben », c'est ça sa conception de la mort. C'est pour lui, à ce moment-là, ce qu'il pensait peut-être, c'était que juste quand il meurt, c'est fini, quoi. Mais alors pourquoi est-ce que Dieu permettrait que le juste meure? En tout cas, on retourne au texte biblique. Les sept points qui sont d'habitude présents dans les textes de Lamentation, on commence au tout début, on essaie de les trouver. Éternel, ah ben voilà, on a notre invocation. Dieu de mon salut, je crie devant toi, jour et nuit devant toi. Donc on a le cri, mais on n'a même pas l'appel au secours. Le psalmiste est tellement dans une situation difficile ou peut-être il est tellement émotionnel à cause des troubles qu'il vit qu'il n'a même pas le temps de dire son appel au secours. Il va direct dans ses plaintes. Que ma prière parvienne en ta présence, prête l'oreille à mes supplications. Mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche du séjour des morts. Encore une fois, si tu ne m'aides pas, je vais mourir ou mon peuple va mourir. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Et on voit cette progression. Pardon. Je suis rassasié de maux. Ça me fait mal. Je m'approche du séjour des morts. On fait comme si j'étais déjà dans le sépulcre. Et en fait, verset 5, je suis étendu parmi les morts. C'est comme ça qu'il le ressent, en fait. Il se sent déjà comme un homme mort, dépouillé de tout ce qu'il avait. Semblable à ceux qui sont tués, couchés dans le sépulcre, et ceux dont tu n'as plus le souvenir. Séparé de ta main. Et au verset 7, on voit vraiment qui en est l'auteur, en fait. C'est ta fureur qui s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. On aime beaucoup ce chant, torrent d'amour et de grâce. Et des fois, les pasteurs parlent de l'amour de Dieu, qui est comme une vague après l'autre de l'amour de Dieu qui se manifeste pour nous et qui prend soin de nous. Et là, en fait, c'est presque la même image, mais c'est des vagues de colère et Dieu s'attaque au psalmiste de façon telle qu'il pense qu'il va se noyer, qu'il ne pourra pas survivre à la force de la colère de Dieu contre lui. Donc on va directement dans les complaintes, dans la plainte. Hein, on commence par le problème du psalmiste. Il n'a plus la force, il se sent totalement dénudé de tous ses biens, de tout ce qu'il a. Il se sent comme s'il vivait, mais comme si c'était un mort vivant. Des versets 8 à 10, on voit son approche vis-à-vis des actions de Dieu. « C'est toi qui as éloigné de moi mes ennemis, mes frères, mes amis, ceux que j'ai perdus durant l'exil. Ils sont morts, je ne les reverrai plus. » Et tu m'as rendu pour eux, pour d'autres personnes aussi, un objet d'horreur. Je suis enfermé, je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance, je t'invoque tous les jours. Ô Éternel, j'étends vers toi mes mains. Est-ce que c'est pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Dans la plainte, on se dit, est-ce qu'il trouve vraiment des mots justes? Est-ce qu'il sait vraiment qui Dieu est? Est-ce qu'il connaît vraiment la plénitude de la gloire de Dieu, de son caractère, de sa révélation, de ce qu'il fait? Mais oui, parce qu'en fait, les miracles que Dieu fait, ce sont les miracles qu'il a fait depuis l'Égypte, et il les connaît. Et quand on regarde même des versets 11 à 12, on sait que lui, il a toute sa théologie correcte. Il part de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu. Vous vous souvenez de ces deux termes? La bonté, la fidélité de Dieu, les prodiges, c'est les miracles qu'il a fait en Égypte. La justice, c'est la loi, la révélation de Dieu pour faire un ordre social pour le peuple d'Israël. Il a toute sa théologie correcte. Il sait qui Dieu est, mais il sait aussi ce qui lui arrive après la mort. Il sait que c'est le sépulcre, l'abîme, les ténèbres, et c'est une terre d'oubli pour lui. Il a une bonne théologie, il sait ce qui se passe, mais il utilise sa théologie à la place d'aller dans le sens de Dieu, pour lutter contre la logique de ce Dieu qui l'abandonne et qui ne l'aide pas. Ici, il n'y a pas de confession de péché, il n'y a pas d'assertion d'innocence, vraisemblablement parce que comme on est dans le contexte de l'exil, il sait qu'ils ont péché, il sait que le peuple d'Israël en entier a péché et qu'ils sont jugés de façon juste, mais ça ne veut pas dire que ça fait pas mal. Et ça ne veut pas dire que... ça ne veut pas dire que ça fait pas mal, ça ne veut pas dire que, qu'il ne le ressent pas comme quelque chose d'excessif. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Et là, on a le questionnement, comme on l'a trouvé dans le psaume 13, le psalmiste qui se pose des questions. Regarde, Seigneur, c'est là où je suis, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur, est-ce que tu me permets de vivre ça? Il n'y a pas vraiment de bonne réponse, il n'y a pas vraiment de note de confiance à la fin, il n'y a pas vraiment de louange à la fin. À la place, ce qu'on a, c'est presque une accusation de Dieu. C'est toi, Seigneur, qui est en charge de ça, c'est ta faute en fait. C'est tes terreurs qui me troublent, c'est tes fureurs qui passent sur moi, c'est tes terreurs encore qui m'anéantissent, qui m'environnent comme les eaux, qui m'enveloppent tout à la fois. Tu as éloigné de moi, c'est toi qui as éloigné de moi mes amis, mes compagnons. Et cette dernière phrase, en fait, dans l'original, elle n'a aucun sens. Mes intimes ont disparu. Dans l'original, en fait, tous les commentateurs se demandent qu'est-ce qu'il faut faire avec cette dernière phrase. Il y a seulement deux mots. Mes amis intimes, ténèbres. Et on ne sait pas quoi faire avec. C'est comme si le psalmiste, en fait, il était devenu tellement émotionnel qu'il ne pouvait même plus finir son texte. Il est juste... envahi de cette terreur, de cette colère de Dieu, il ne sait pas quoi faire avec. Il dit, tous mes amis, je vis comme dans les ténèbres. C'est comme si les ténèbres, c'était mon meilleur ami. Mes amis ont tous été anéantis. Donc un texte sympa qui nous donne la joie, pas vrai? Et on se dit, mais attends, on est toujours une église, on aime le Seigneur quand même, on aime Dieu, c'est lui qu'on adore. Alors, mais qu'est-ce que j'en fais de ce texte de la Bible? Moi, tout ce que je veux faire pour vous, c'est vous montrer, regardez, il y a la moitié des psaumes du psautier qui sont des textes de lamentation. Et si toute Écriture est inspirée de Dieu et est faite pour notre enseignement, pour notre fortification, il y a quelque chose à apprendre aussi de ces textes. Je pense que la première chose qu'on peut apprendre, c'est que Dieu nous prend là où on est, que ce soit dans le psaume 13, où notre vie est mise en cause, on ne sait pas ce qui va trop se passer, que ce soit pour nous de, juste d'un point de vue émotionnel, ou qu'on vive quelque chose aussi dur que l'exil. Dieu nous prend là où on est et il nous donne les mots en fait pour pouvoir, même si c'est juste ça, avoir, avoir une conversation continue avec lui. Le psaume 88, s'il y a beaucoup de choses qu'on ne se sentirait pas libre de dire, il y a au moins une chose qui continue, c'est que dans son désespoir, alors qu'il voit la mort tout autour de lui, qu'il voit le désespoir, qu'il a été déraciné de son pays, de sa culture, de ses amis, il continue une conversation avec Dieu, il est engagé, il est consacré à Dieu, même au milieu de ce désastre. Alors, Dieu veut nous prendre, chacun, les uns les autres, là où on est, et il peut nous prendre dans des difficultés simples et dans des difficultés tragiques à portée gigantesque. Après, ce que nous devons faire en tant qu'Église, je pense, c'est accepter que les uns les autres, on puisse vivre des difficultés et avoir un deuil qui est sain. Parce que quand on perd quelqu'un de cher, c'est facile de dire « j'aime Christ plus que mon fils, que ma femme, que ma propre vie ». Mais il faut quand même avoir il y a une sainteté, une humanité qui respecte le fait qu'on a quand même perdu quelque chose. Et Dieu, au travers de ces textes, nous donne des outils pour pouvoir progresser. On perd quelque chose, il faut l'accepter, il faut travailler sur ça, il faut être progressif, accepter la souffrance, accepter le deuil, mais en même temps avoir de l'espérance. Et nous qui vivons la vie pleine, la vie de la foi en Christ, la vie par l'Esprit, il ne faut pas oublier que ce Dieu qui nous a dit « suis-moi » et qui nous donne la victoire, c'est aussi ce Jésus qui est mort sur la croix et qui dit « dans ce monde, vous serez persécutés ». Et ce n'est pas par hasard, je pense, que Jésus nous a dit « dans ce monde, vous serez persécutés » et que la moitié des livres, la moitié des psaumes du psautier, ce sont des textes de lamentation. Dieu nous donne des outils pour pouvoir vivre dans cette difficulté dans laquelle il nous invite, et ça fait partie de la vie chrétienne. Il faut l'accepter pour nous, il faut savoir travailler de façon saine sur nos difficultés, et il faut savoir accompagner les autres. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vient avec un gros sourire à l'église, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas venir à l'église non plus et qu'on ne peut pas s'encourager les uns les autres. Donc on apprend à faire un deuil pour nous-mêmes, on accepte que ça fait partie de la vie chrétienne et on apprend à le faire de façon équilibrée. En jugeant nos pensées, on ne pense pas n'importe quoi, on ne pense pas n'importe comment et on ne dit pas n'importe quoi. Ces psaumes, même le psaume 88 qui est très difficile, c'est une œuvre de poésie incroyable. Il y a tous les éléments poétiques qui seraient dans un texte poétique hébraïque. C'est très très bien fait, c'est très très bien dit, même si ça dit des choses très très difficiles. Alors quand on pense ou quand on parle à Dieu dans nos prières, dans nos difficultés, il faut peser ses mots. Il faut savoir bien s'exprimer parce que ça fait partie de notre consécration à Dieu, dire j'ai des difficultés, mais je me tourne vers toi et je peserai mes mots quand je me plains vers toi. Et il faut garder cette nuance d'espérance autant que possible. Le psaume 88, c'est tellement difficile qu'il n'arrive pas à avoir une nuance d'espérance. Mais on ne vit pas tous l'exil, on ne vit pas tous des calamités aussi fortes que cela. Et pour nous, il y a une espérance. On sait qu'au moins, il y a la résurrection. C'est notre espérance, en fait, en tant que chrétien. Après le psaume 88, donc, il nous invite aussi à continuer à être en conversation avec Dieu, même dans les difficultés les plus profondes. Dans une difficulté de génocide comme eux ils ont vécu l'exil, les Babyloniens qui viennent et qui ont commis des atrocités en Israël, même à ce moment-là on peut continuer à être en conversation avec Dieu, et ce Dieu qui nous invite à être en conversation avec lui il répondra en son temps et il nous donnera la paix. Après, on ne vit pas tout ça, et merci Seigneur qu'on ne vit pas tous les jours ces mêmes atrocités, mais ce que ça veut dire pour nous aussi, c'est que certains textes comme ça, il faut les respecter pour ce qu'ils sont. Le psaume 88, probablement vous n'aurez jamais une prière comme celle-ci. Et merci Seigneur qui vous protège de certaines difficultés, de difficultés aussi fortes que ça. Vous et moi, probablement, on n'aura jamais à prier quelque chose comme le psaume 88. Mais ce que ça veut dire, c'est que nous, on doit être reconnaissant au Seigneur, parce que merci Seigneur, il ne nous donne pas ces difficultés-là. Et en même temps, on peut prier et on peut louer le Seigneur que Dieu a donné à ceux qui sont dans la difficulté, comme des chrétiens persécutés tout autour du monde. Il leur a donné des mots pour pouvoir s'adresser à lui-même dans la difficulté. Et puis finalement, les psaumes de lamentation, c'est la moitié des psaumes. Et c'est très facile de venir devant Dieu et dire « Ah Seigneur, j'ai pas eu mon examen. Ah Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. » Donne-moi ce qu'il me faut pour pouvoir vivre. Mais les plaintes, il y a un moment où c'est adapté de le faire et il y a des moments où ce n'est pas adapté de le faire. Il y a quelqu'un qui a dit, vous connaissez cette citation, il a dit que la religion, c'était l'opium du peuple. Le peuple va vers un Dieu parce que le Dieu leur donne ce qu'ils veulent. Mais nous, la foi chrétienne, ce n'est pas juste comme ça. On adore le Dieu qui nous a donné pleinement, richement en Christ, mais un Dieu qui nous invite aussi à la persécution des fois, à des difficultés. Et on n'est pas marxiste, mais en même temps, on adore un Dieu auquel on est consacré dans les bonnes situations et dans les mauvaises aussi. Ce n'est pas une religion juste simple où on reçoit quelque chose de Dieu, c'est aussi une religion de consécration. Bon. J'ai déjà dépassé l'heure, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors peut-être je vais m'arrêter. Je me suis assez plaint, hein, aujourd'hui. Bon allez, alors peut-être je vais finir tout simplement dans la prière.